Chapitre 7, la bande joyeuse. Joulou, tâtonnant comme un aveugle et pesant à deux mains sur ses yeux que le sang chaud brûlait, trouva la porte de la maison. Il rentra sans avoir été vu par la ronde de police ni par la bande joyeuse qui sortait du cabaret de la tour de Nesle. Le froid était vif. Les rares fenêtres qui donnaient sur la partie du boulevard où le meurtre avait eu lieu étaient toutes fermées. Le crime, qui pour une conscience large et mal éclairée avait pris un instant les allures d'un duel, n'avait pas eu d'autre témoin que cette femme penchée là-haut à son balcon et qui était complice. Le secret mortel restait entre cette femme, Joulou et Dieu. Les jeunes gens, tous costumés qui descendaient la rue Campagne Première, causaient et chantaient. Ceux qui causaient disaient « Ah, fin de carnaval, la tirelire est vide, on a mangé la dernière montre et le père Lancelot ne fait pas crédit. » Ceux qui chantaient, ivres à demi, répétaient avec fatigue et mauvaise humeur ce refrain qui avait bercé le dîner de Joulou « Allons, chantons, trinquons, buvons !» Les uns et les autres bâillaient. Il faut bien s'amuser, ainsi s'amusent trop souvent les bandes joyeuses. Quant aux fonctionnaires composant la ronde de police, ils discutaient avec une courtoisie calme des sujets littéraires ou politiques et dormaient debout du meilleur de leur cœur. Les costumes de la bande joyeuse étaient tous empruntés au drame de la tour de Nesle, nous savons cela. Le roi Louis le Hutin s'arrêta au milieu de la ruelle et dit « Si nous étions dans les temps de barbarie, où j'avais l'honneur de gouverner la France, nous dévaliserions un passant et nous finirions la nuit au numéro 113. »« Voilà, soupira Enguerrand de Marigny, il n'y a plus rien de bon, tout est fané, même mon gibet de Montfaucon. » Cependant, soyons justes, au XIVe siècle, le numéro 113 était encore à naître. » J'ai lu dans La morale en action, dit Gautier Donnet, que deux jeunes officiers mirent un jour leur honneur au mont de piété. Je propose, garde ton honneur, fit observer Landry. Au-dessous d'une valeur de 3 francs, les commissionnaires ne prêtent plus. En ce moment, Joulou essoufflait et s'élançait dans le salon de Marguerite. Je l'ai tué, dit-il, comme si quelqu'un l'eût interrogé. Tu es raide. Personne ne l'entendit, car Marguerite était évanouie. Joulou lui jeta de l'eau au visage. Elle ouvrit les yeux. Mais en voyant ce hideux masque de sang qu'il avait sur la figure, elle referma ses paupières avec terreur. « Lave-toi, balbutia-t-elle, si on venait... » Il se regarda dans la glace et recula, effrayé. « Ah, cela me brûlait comme de l'eau bouillante, dit-il. Je suis fâché de ce que j'ai fait. » Je ne lui en voulais pas avant ce soir à ce jeune homme. C'est bête. Marguerite lui apporta elle-même de l'eau dans un bassin. « Tu es blessé aussi ? » demanda-t-elle. « Non, c'est tout à lui, le sang, » répliqua-t-il en plongeant sa tête dans le bassin dont l'eau devint rouge. « Ah, je suis fâché de ce que j'ai fait, bien fâché. Il ne se battait pas de bon cœur. Il avait peur de me blesser. Cornebœuf. « Moi, je l'ai tué. Ah, c'est bête !» Marguerite changea l'eau du bassin. Elle avait une question sur les lèvres, mais elle ne parlait point. Joulou s'inondait d'eau fraîche, disant « Ah, celle-là est froide au moins. Ah, sans la glissade, je n'aurais pas pu. Il n'y avait personne à regarder. L'homme était parti, l'homme à la lanterne. Et lui, oh, c'était un mal, un vrai. Il n'a pas dit seulement « au secours ». Mais parle donc, toi, car c'est toi qui as tout fait. » « Et pendant que j'étais caché derrière l'arbre, je t'ai bien vu à ton balcon. »« Je t'ai crié, ne le tue pas, balbutia Marguerite. As-tu entendu ?»« Il ne t'avait pas volé le portefeuille ?» reprit Joulou, qui fixa sur elle son œil égaré. « Où est-il, le portefeuille ?» demanda tout bas Marguerite. Au lieu de répondre, Joulou se laissa choir sur le divan. « Je n'ai pas peur de mourir, » dit-il, pendant que sa tête inclinée battait sur sa poitrine. « Mais c'est l'échafaud. J'étais une fois à la barrière Saint-Jacques voir l'échafaud. Je ne savais pas qu'un jour viendrait. Ah, c'est bête, c'est bête. » Il se tut et son corps eut une convulsion. Marguerite s'assit, les bras croisés et la tête haute. Ah, les bonnes gens là-bas, poursuivit Joulot d'une voix changée et douce comme la plainte d'un enfant, les pauvres bonnes gens, le père et la mère. Ah, il n'y a jamais eu que de braves cœurs chez nous, sais-tu? Ah, je le crois bien que je me tuerais. Ils auront bu à ma santé ce soir, quoi qu'ils soient fâchés contre moi. Je leur ai coûté tant d'argent. Demain, c'est mercredi des cendres. Ils iront tous deux à la paroisse et la mère aura des larmes dans les yeux en priant pour moi. Marguerite avait les sourcils froncés. Un cercle violâtre entourait ses yeux, tranchant sur la mortelle pâleur de sa joue. Une crispation nerveuse déformait l'arc de ses lèvres. Elle planta ses mains glacées dans les cheveux de Joulou et le releva, mettant en lumière son visage bouffi par les larmes. Car il pleurait comme un enfant. « Est-ce fini ? » dit-elle d'une voix sifflante. Les deux poings de Joulou se fermèrent. « Est-ce fini, brute ? » répéta-t-elle, rallumant l'éclair de ses yeux. « Je souffre plus que toi, car je l'aimais, entends-tu, je l'aimais. Donne le portefeuille. » « Il n'y avait pas de portefeuille, » gronda Joulou. « Ah ! » fit Marguerite, dont la lèvre blêmit. « J'ai eu 10 minutes d'agonie. Est-ce pour rien que j'ai pleuré du sang ?» Joulou passa ses doigts écartés sur son front. « Brute, » murmura-t-il, « tant mieux. Alors j'oublierai peut-être. » « Je veux le portefeuille !» s'écria follement Marguerite. « Il est à moi !» J'ai touché sa poitrine, prononça Joulou avec effort, non pas pour chercher ton portefeuille, mais pour tâter son cœur. Le coup aurait tué un bœuf. « Brute, brute !» Son cœur ne battait plus. Il n'y avait pas de portefeuille, j'en suis sûr. Ah, écoute, je me souviens, quand il a glissé, quand il est tombé, j'ai vu sa main qui disparaissait sous le revers de sa jaquette. Je m'en souviens parce que je me disais, il va me faire sauter le crâne d'un coup de pistolet. Mais non, ce n'était pas un pistolet. Ah, la mémoire me revient à mesure que je parle. Ah, c'était peut-être son portefeuille. Il l'a jeté par-dessus sa tête, et le portefeuille, ah, c'était bien le portefeuille, j'en suis sûr maintenant, est allé tomber rue Campagne, à 20 pas de nous. Ah, « Je l'aurai, » dit Marguerite, « il m'a coûté trop cher, je le veux !» Ses deux mains s'arrachèrent de la chevelure de Joulou, qui perdit l'équilibre et tomba en avant, la face contre terre. Il n'essaya point de se relever. Il pensait vaguement, dans la nuit bouleversée de son cerveau, « Celle-là est le démon, elle l'aimait. Faut-il me tuer ou retourner chez nous, là-bas, en Bretagne ?» La mère me disait, « Quand tu fais mal, j'ai de mauvais rêves. Que va-t-elle rêver cette nuit ? Ah, c'est bête, on a tort de venir à Paris. Ah, j'irai me confesser demain et me noyer après. » Marguerite descendait l'escalier d'un pas ferme. Elle s'arrêta cependant au seuil de la porte extérieure parce que cette portion du boulevard, tout à l'heure si déserte, où le meurtre avait eu lieu, était maintenant pleine de monde. Les choses avaient marché. La bande joyeuse qui sortait de la tour de Nesle et la ronde de police qui venait du carrefour de l'Observatoire s'étaient rencontrées à l'angle de la rue Campagne Première, apercevant toutes deux à la fois le Buridan qui baignait dans une mare rouge en travers de la glissade fondue. À Paris, les curieux jaillissent de terre, il y avait déjà des curieux. Marguerite referma doucement la porte qu'elle avait ouverte et resta derrière la claire-voie. Il n'y avait point de concierge. C'était chose commune alors et qui se retrouve encore, spécialement dans ce quartier, où le principal locataire, loueur de chambre la plupart du temps, garde lui-même la maison. Le principal locataire était ici une vieille étudiante qui avait rapiné quelques milliers d'écus autour des écoles et qui couchait ses rhumatismes avec les poules. La ronde, composée d'un officier de paix et de deux agents, était en quête d'un conciliabule républicain qui se tenait je ne sais où. Les nuits parisiennes ont leur colonne de profits et pertes. Le meurtre du Buridan n'était qu'une affaire courante, un problème qui devait être posé le lendemain aux virtuoses de la sûreté et résolu peut-être dans la journée, comme aussi peut-être devait-il rester au fond des cartons, insoluble jusqu'à la consommation des âges et de la préfecture. Ce sont des hommes prudents, avisés, doués d'un surcoup d'œil. Nous autres qui tenons la plume, nous nous mettons volontiers contre eux, et, chose singulière en vérité, les 3/4 de la population paisible qu'ils sauvegardent sont de ce capricieux avis. il ne faut pas discuter l'opinion d'Athènes, qui se déclare elle-même la ville la plus spirituelle du monde. On passerait pour béotien, rien qu'à la taxer d'outrecuidance. Mais tout en respectant l'opinion d'Athènes, je prends, moi qui parle, la liberté grande de penser différemment. J'aime ceux qui me font la voie libre pour passer, la nuit calme pour dormir, et en vérité, si les sergents de ville n'arrivaient pas toujours après que la voiture a écrasé la dame. D'un triple coup d'œil d'aigle, la ronde vit tout de suite qu'elle n'avait rien à faire avec la bande joyeuse, encore moins avec les curieux arrivant un à un. La bande joyeuse portait l'innocente peinte dans ses regards un peu avinés, mais surtout ennuyés, comme il convient, à des regards de carnaval. Parmi les curieux se trouva cet étudiant en médecine, qui ne manque nulle part de l'autre côté de l'eau et qui deviendra sans doute un célèbre docteur. Cet étudiant, ayant vu le poignard et le sang, déclara que la mort de Buridan devait être attribuée aux suites d'une blessure. On souleva Roland. Deux ou trois femmes remarquèrent l'idéale beauté de ses traits quand sa pauvre tête pâle pendit sur le bras de l'officier de paix. L'étudiant en médecine offrit généreusement ses services. Une sorte de convoi s'organisa qui traversa le boulevard pour gagner la rue de Chevreuse et de là la rue Notre-Dame-des-Champs où était située la maison des religieuses de Bon Secours. L'officier de paix, n'étant pas encore bien convaincu de la mort de Buridan, avait envoyé un exprès au numéro 1 de la rue du Regard où demeurait le docteur Récamier. Cet excellent médecin, célèbre par son talent, par ses grâces et par sa paresse, n'avait qu'un pas à faire de son hôtel au couvent de Bon Secours, occupant une des premières maisons de la rue Notre-Dame-des-Champs. Tout cela, on en conviendra, était supérieurement arrangé. Quoi que puisse en penser Athènes, j'ose à peine croire que les voleurs, arrivant sur le lieu à la place des agents de police, eussent pris des mesures plus profitables. Seulement, la ronde se donna la peine d'arrêter, rue de Chevreuse, au coin d'une borne, le chiffonnier Toureau, ancien époux légitime de feu Madame Théodore, parce que le brave garçon s'était endormi, la tête contre la muraille, auprès de sa lanterne encore allumée. On excusera cet excès si on réfléchit que, par le froid qu'il faisait, et grâce aux 2 litres de poison qui congestionnaient le cerveau de l'amant de Virginie, cet homme, honnête, se fut éveillé dans l'autre monde le lendemain, mercredi des cendres. La bande joyeuse, cependant, n'avait point suivi le convoi. Elle restait silencieuse au coin de la rue Campagne. Marguerite attendait son départ avec impatience. Marguerite était toujours derrière la claire-voie. Elle guettait. « J'ai cru que c'était Léon Malvois, » dit le premier Louis le Hutin. « C'est le même costume, » répliqua Landry, « et nous n'avons pas vu Léon Malvois de toute la soirée. »« Bah, » fit Enguerrand de Marigny, « Léon est près d'ici, chez sa belle Marguerite. Je vais me coucher, messire. » Les autres échangèrent un regard. On laissa partir cependant le premier ministre qui allait se coucher, mais la joyeuse bande avait quelque arrière-pensée. Ceux qui la composaient se faisaient des signes et parlaient bas. Au moment où Enguerrand de Marigny s'en allait, les mains dans les poches, et passait devant la porte de Marguerite, la voix du roi de France s'éleva tout à coup et cria « Hola, coquin de Jaffré, tu nous voles, mon ministre !» Enguerrand de Marigny, paraîtrait-il, s'appelait Jaffré de son nom. Il eut un vif tressaillement à la voix de son souverain, qui était en même temps son maître clerc. Quelqu'un qui l'eût examiné de près en ce moment aurait bien vu que l'idée de prendre ses jambes à son cou lui traversait l'esprit. C'était un pauvre diable, assez haut sur pied, mais mal bâti, et qui portait gauchement son costume de louage. Il était troisième clerc à l'étude de maître Deban, notaire rue Cassette. Il s'arrêta précisément en face de Marguerite, caché derrière la claire-voie. « Monsieur Commérolles, » dit-il d'une voix qu'il voulait rendre ferme, « je ne déteste pas la plaisanterie, mais s'il vous plaît, pas de gros mots. « Seigneur, on n'a pas l'intention de vous offenser, » repartit le maître clerc qui s'approchait, entouré de ses compagnons. « Mais n'est-ce pas déjà pour concussion que vous avez été pendu au Moyen-Âge ? Marguerite n'écoutait guère. Ces grotesques détails n'avaient aucun rapport avec l'objet de sa préoccupation. Elle attendait avec une impatience croissante le départ de la bande joyeuse. Un mot, cependant, lui fit dresser l'oreille. « Par Notre-Dame, disait Landry, tu as ramassé quelque chose là-bas, Jaffray, lorrain, vilain, traître à Dieu et à ton prochain. J'ai idée que ce n'est pas une prune de Reine Claude. La saison s'y oppose et les arbres qui nous ombrageaient sont des ormes. » Ce Landry, bien découplé dans son costume de routier, était le deuxième clerc de l'étude de Ban, monsieur Urbain Auguste Le Tanneur, jeune homme lettré, qui envoyait des articles satiriques aux riverains de la Meuse, journal de sa patrie. Jaffray répondit, « Je n'ai rien ramassé du tout !» Puis il se reprit, voyant qu'on faisait déjà cercle autour de lui. « Peut-être mon mouchoir » balbutia-t-il. « Archer !» ordonna terriblement le roi Comérole, « qu'on saisisse ce traître et qu'on le fouille !» Le tanneur et un autre, qui portaient le modeste harnais d'un manant, appréhendèrent Jaffray au collet. Jaffray dit au manant, « Monsieur Beaufils, vous n'êtes pas de l'étude, à bas les mains !» Mais Comérole décida, « Va bien, Beaufils, tu as qualité, exécute !» Monsieur Beaufils, qui n'était pas de l'étude de banc, exécuta. Sa jambe droite, évidemment habituée à cet exercice élégant, faucha doucement les deux jarrets de Jaffray qui s'assit par terre à l'improviste. Il n'y avait plus à résister. Jaffray dit « Voilà une affaire. Quoi, la garde n'est pas loin. Voulez-vous ramasser les voisins? Patience donc, on va s'expliquer comme des amis. » Puis, baissant la voix, « Que savez-vous si l'histoire de l'homme mort n'a pas attiré du monde aux fenêtres » ajouta-t-il. Tous les membres de la bande joyeuse levèrent instinctivement les yeux, interrogeant à la fois les maisons voisines, la chaussée et les deux trottoirs. Rien de suspect ne se montrait, car ils ne pouvaient voir Marguerite dans la nuit complète de l'allée. Ils se rapprochèrent néanmoins et resserrèrent leur groupe, d'où il ne sortit plus que des murmures. Personne, assurément, n'aurait pu les entendre des fenêtres, mais ils avaient un témoin invisible qui ne perdait pas une seule de leurs paroles. Ils étaient maintenant si près de la porte que Marguerite aurait pu les toucher en étendant la main. « Mon Dieu, dit Jaffray, qu'on avait relevé, je voulais tout uniment aller chez moi, ou n'importe où, dans un endroit sûr, pour voir un peu ce que c'est. Après, il était toujours temps de partager, n'est-ce pas vrai ?» « Oui, oui, toujours temps, fit Audrey, ça ne pressait pas, coquin !»« Silence !» ordonna le roi. « Nous sommes un tribunal, que l'accusé soit traité avec clémence. Alors, Jaffray, tu n'as pas pu voir encore ce que tu as ramassé ?»« Tâchez donc de ne pas nous entrapeler par nos noms, vous !» grommela le troisième clerc, « ça peut porter malheur. Je sais bien que j'ai ramassé un portefeuille parbleu, mais je ne sais ce qu'il y a dedans. » Derrière la porte, Marguerite, qui écoutait la tête penchée, se redressa. Elle fut désormais moins attentive, parce qu'elle avait davantage à réfléchir. Le mot « portefeuille » avait aussi produit son effet sur la bande joyeuse. Entre tous les objets qui chatouillent l'imagination des fantaisistes, comptant sur un gros lot à cette loterie du hasard dont les billets vont et viennent, le portefeuille tient le premier rang. En soi, le portefeuille est une chose aussi capricieuse que la destinée elle-même. Il peut ne rien contenir. Il peut contenir moins que rien, des lettres d'anciennes maîtresses, des hémistiches de tragédie, des nigauderies de conspirateurs, des notes de blanchisseuses, mais il peut contenir une fortune. Je dis le plus plat des portefeuilles. Comment, sous l'espèce d'un secret, comme dans les mélodrames ? D'abord oui, car les mélodrames sont bien forcés de partir d'un point impossible, sinon probable. Oui, tel secret, qui n'enflerait même pas dans le ventre plat d'un carnet de danseuse, peut valoir une fortune, et c'était justement un secret de cette sorte que Madame Thérèse, la malade du numéro 10 de la rue Sainte-Marguerite, la mère de notre pauvre beau Roland, voulait acheter au prix des 20 billets de 1000 francs contenus dans le portefeuille. Racheter, devrions-nous dire plutôt, car ici les 20 000 francs étaient une rançon et le secret appartenait bien légitimement à la mère de Roland. Il y a, dit-on, en Angleterre, trois banknotes de 200 000 livres, valant par conséquent chacune 5 millions de francs. La première appartient à la succession du prince conjoint, la seconde est la propriété de Madame A. R., qui fit longtemps les affaires d'amour d'un célèbre banquier israélite, la troisième est encadrée dans le salon du gouverneur du Royal Exchange, où son radieux aspect excite un enthousiasme profond et sincère que ne firent jamais naître les plus nobles pages de Murillo, Raphaël ou de Léonard de Vinci. Laissant à part cette troisième épreuve, il existe donc au monde deux portefeuilles au moins qui, plats comme des crêpes de Basse-Bretagne, peuvent contenir 250 000 francs de rente. Les rêves de la bande joyeuse n'allaient probablement pas si loin que cela. Pour dire vrai, il s'agissait un peu de continuer cette fête du Mardi Gras, interrompue par défaut de subsides. La caisse sociale, parmi les clercs de l'étude de banc, était dans un lamentable état. Quelques centaines de francs eussent reçu ici le plus favorable accueil. Nous savons que l'aubaine valait mieux que cela. Jaffray, non sans répugnance, déboutonna sa dalmatique et en retira le portefeuille. Le roi Comérol le saisit comme une proie. Aussitôt que les doigts experts du roi Comérol eurent touché l'enveloppe de cuir, il poussa un petit cri de surprise. Beaucoup de mains savantes reconnaissaient la soyeuse étoffe du billet de banque à travers le maroquin. « Domino !» s'écria le roi, oubliant toute prudence, « il y a du sucre !» Un mouvement involontaire de Marguerite fit tourner tous les yeux vers la porte qui montrait sa claire voix, noire comme une mystérieuse menace. Monsieur Beaufils murmura « Mauvais endroit pour faire l'autopsie du calepin !» Et s'approchant à l'oreille de Comérol, il ajouta « J'ai vu une tête là, hé, bonhomme !» Ce Comérol était un garçon de moyen, comme nous en aurons d'abondantes preuves par la suite. Il marcha sur le pied de M. Beaufils, qui n'appartenait point à l'étude de banc, et reprit comme si celui-ci lui eût dit tout autre chose. « Truand, mon ami, je comprends votre légitime impatience. Procédons à l'inventaire. Je romps les scellés. »« Attention, dit Beaufils tout haut, pas de tricherie. » Les scellés sont rompus. Numéro 1. Une contremarque du théâtre du Panthéon, pour la représentation des bohémiens de la périlleuse montagne. Je vous avais dit, domino. Il fit le geste de fouiller plus en avant. La bande joyeuse qui flairait le stratagème éclata de rire. Numéro 2, poursuivit Comérol, une reconnaissance du Mont-de-Piété. Un gilet, 5 francs. Il devait être élégant. Numéro 3, et dernier, une feuille de copie de lettres pliée en 8 pour faire des cigarettes économiques, contact soyeux, propre consistance du billet de banque, origine de ma déplorable erreur et de mon cri « domino ». D'une seule voix, en chœur, la bande joyeuse donna ses deux notes profondes et convaincues « volé ». Monsieur Beaufils ajouta « pas de chance ». La scène était parfaitement bien jouée, ni trop longue ni trop courte, sans détails inutiles, sans charge, sans affectation. Elle eût réussi près de Marguerite elle-même si Marguerite n'avait eu, par avance et d'après le témoignage même de ses yeux, la certitude que tout ceci était une effrontée comédie. « Seigneur Enguerrand, reprit le roi Comérol en s'adressant à Jaffray, nous vous relevons de l'accusation portée contre vous, mais nous confisquons le portefeuille en faveur de notre concierge, dont nous avons la coutume d'entretenir l'amitié par de petits cadeaux chaque fois que ses munificences ne coûtent rien. Vous pouvez vous retirer, seigneur, que Dieu vous ait en sa sainte et digne garde. » Il prit Jaffray par les épaules et le fit virer sur lui-même, mais dans ce mouvement, il lui glissa à l'oreille. « Fais semblant de t'en aller et reviens. Il y en a. Nous serons à la tour de Nesle. C'est bien la peine, gronda Jaffray. Bonsoir, les vieux. »« À dodo !» cria le tanneur. « C'est demain carême. Grâce au ciel, l'état de nos finances nous permettra de jeûner jusqu'à Pâques. » Ils quittèrent la place. Jaffray, se dirigeant comme la première fois vers le quartier d'enfer, les autres revenant sur leurs pas et chantant du propre accent qui convient à des vaincus, obligés, faute d'argent, à quitter le champ de bataille du Mardi Gras, leur refrain bachique transformé en berceuse. « Allons, chantons, trinquons, buvons !» Ils dépassèrent ainsi la rue Campagne, qu'ils regagnèrent bientôt après, en silence et un à un. Le pauvre diable a bel et bien été assassiné, dit Commérol à voix basse, quand ils furent groupés à l'angle de la ruelle. Cela ne lui fait ni chaud ni froid que nous soyons ses héritiers. Il ne s'agit plus de s'amuser. L'affaire proposée par Monsieur Beaufils devient possible. On soupe, les amis, mais sombrement, comme des rentiers. Car avec ce qui est là-dedans, acheva-t-il en frappant sur le portefeuille, il faut que l'hiver prochain, à pareille époque, chacun de nous vive de ses rentes.